J'ai intitulé ce que j'ai à vous dire cet après-midi, l'opération du Saint-Esprit. Je sais que c'est une expression idiomatique où l'on entend ricaner l'incrédulité qui est courante alentour, hein, quand les gens disent « ça s'est fait par l'opération du Saint-Esprit ». Ils le disent en rigolant pour suggérer que ça s'est fait comme ça, n'importe comment, ou peut-être par supercherie. Alors je reprends la formule, mais pour la racheter. Et parce que je souhaite souligner ce qui fait le cœur de l'œuvre ou opération du Saint-Esprit, à savoir l'union à Jésus-Christ, et Jésus-Christ comme le crucifié qui est ressuscité d'entre les morts. Alors je lirai deux passages à nouveau, quelques versets pour préfacer ce que nous avons à dire dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 25 à 27, une des promesses du don du Saint-Esprit, donc Ézéchiel 36, « 25 à 27, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Et puis dans le Nouveau Testament, donc le passage qui a déjà été annoncé par M. Kosicki ce matin, donc dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, les 6 premiers versets. « Ne savez-vous pas faire, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et elle peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Jusqu'ici, cette lecture. La dépendance de l'Esprit à l'égard de Jésus-Christ et de son œuvre, que j'ai déjà souligné ce matin, en suivant le texte de l'Évangile selon saint Jean, c'est tout le Nouveau Testament qui la proclame, et elle a été marquée dans les faits d'une triple manière qui est intéressante à observer, et que je n'ai pas mentionné ce matin. Deux signes, ce sont des faits, mais en même temps ils ont eu valeur de signes, et ils sont rapportés dans l'Évangile selon Jean, et puis ce que l'apôtre Pierre évoque dans son discours de la Pentecôte, lorsqu'il explique comment l'Esprit est répandu. Premier signe qui démontrait que l'Esprit procédait de Jésus-Christ, que l'eau vive coule de lui, c'est au moment même de la crucifixion. De l'eau jaillit de son côté percé. L'évangile de Jean, au chapitre 19, met un accent si fort là-dessus que c'est certainement pour montrer qu'il s'agit d'un signe. L'eau représente l'esprit qui jaillit du cœur du crucifié, le rocher frappé pour nous. Ce qui nous le prouve, me semble-t-il, c'est que le fait est attesté par Jean, le témoin qui a vu ces choses, avec citation du passage du livre de Zacharie que nous avons lu ce matin. Vous voyez toutes les connexions bibliques qui nous permettent d'affirmer ce que nous affirmons. Ils regarderont à moi qu'ils ont transpercé. C'est ce transpercement de celui qui est Dieu lui-même venu jusqu'à nous qui permet qu'une source pour le péché et l'impureté jaillisse à Jérusalem. Et cette source se transforme au chapitre 14 de Zacharie en un fleuve d'eau vive qui fertilise les régions de la mort, qui va du côté de la mer morte et qui va de l'autre côté aussi d'ailleurs, dans Zacharie 14. Donc, nous pouvons être certains de la valeur de symbolisme de ce jaillissement d'eau au moment où Jésus était en croix et où son côté a été transpercé, qui nous est signalé dans Jean 19. Deuxième fait à valeur de signe, le soir de Pâques, pour nous montrer que l'Esprit procède du ressuscité, car le crucifié est devenu le ressuscité. Il nous est dit que lorsqu'il s'est présenté à ses disciples réunis dans la chambre haute, il a soufflé sur eux en leur disant « Recevez Esprit Saint ». C'est là, sans doute, une manière de dire « L'Esprit que vous allez recevoir, parce que la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu, ce n'est pas la Pentecôte encore ». Mais l'esprit que vous allez recevoir, c'est l'esprit qui est mon esprit de résurrection. L'esprit que, comme ressuscité, je peux vous communiquer et qui communique la vie de résurrection. Je vais en reparler de manière plus détaillée. Et puis le troisième fait, c'est celui donc que l'apôtre Pierre souligne. Élevé à la droite de Dieu, Jésus, Seigneur et Christ, envoie le Saint-Esprit qui était promis. C'est sur la base de l'accomplissement entier de son œuvre et donc son entrée dans son règne glorieux que Jésus envoie l'Esprit. Donc nous avons une confirmation triple de ce que nous avons déjà affirmé ce matin sur la base de Jean 7. L'Esprit procède de Jésus-Christ et nous voyons à quel point il faut souligner Jésus-Christ, non pas simplement comme Dieu, non pas simplement comme Dieu venu en chair, mais comme ce Dieu venu en chair, mort et ressuscité. Et l'œuvre de l'Esprit, comme Esprit du Christ crucifié et ressuscité, c'est de nous unir à lui dans ce passage, en cette mort et en cette vie, ou en cette transition vers la vie. Et c'est de ces deux points que je veux vous entretenir plus spécialement cet après-midi. Nous sommes, c'est là l'opération du Saint-Esprit en son cœur, unis à Jésus-Christ dans sa mort, unis à Jésus-Christ dans sa résurrection. Et je vais me guider tout spécialement sur le passage de Romains 7 que nous avons lu, mais aussi quelques autres versets de l'environnement de ce texte dans l'Épître aux Romains et quelques autres passages du reste du Nouveau Testament. En un sens, on peut dire que Jésus est mort pour que nous ne mourions pas, et en particulier pour que nous ne connaissions pas la seconde mort du châtiment éternel. Mais en un autre sens, il est juste de dire qu'il est mort pour que nous mourions avec lui, après lui. On pourrait comparer, me semble-t-il, à l'action d'un chef qui franchit le pont sous la mitraille, qui réussit à faire taire la mitrailleuse des ennemis et qui dès lors peut être suivi dans la traversée du pont par les siens. Jésus-Christ a subi tout le choc de l'adversaire, il l'a supporté pour nous, nous n'avons plus à le supporter de la même façon, mais nous le suivons. Il a ouvert un chemin sur lequel nous pouvons le suivre et de cette façon nous pouvons dire que nous avons à mourir d'une mort qui est semblable à la sienne et dépend de la sienne. Nous sommes unis à lui dans sa mort. Alors, mort comment, à quoi? Le texte de Romains 7 que nous avons lu souligne mort à la loi. C'est là le point sur lequel l'apôtre insiste dans le passage en cause et il utilise l'image, l'illustration du mariage pour montrer que maintenant ceux qui sont à Jésus-Christ ne sont plus sous la loi, ne sont plus sous le régime de la loi, ils sont morts à ce régime, ils sont morts à la loi. L'image du mariage, c'est très simple, hein, vous avez pu la saisir alors que je lisais le texte. Lorsqu'il y a un mariage, et bien sûr là, Paul n'envisage pas de divorce, qui n'est pas dans l'intention divine. Lorsqu'il y a un mariage, le lien marital, la loi en cause, ça dure jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort que la promesse vaut et que la loi s'applique. Mais à partir du moment où la mort intervient, le lien est coupé. Et il y a donc liberté de se marier autrement, etc., pour le conjoint survivant. Alors Paul applique, évidemment l'application n'est pas... aucune image ne joue à 100%. Hein. Paul l'applique à notre rapport à la loi. Nous étions en quelque sorte comme mariés à la loi, mais la mort d'un des deux conjoints fait que ce lien est abrogé. Alors en l'occurrence, c'est le conjoint qui nous représentait qui est mort en fait. Mais l'important c'est que la mort est passée et que le lien est rompu, que désormais nous ne sommes plus liés par la loi. Alors de quelle façon? Qu'est-ce qui est en cause? Paul pense d'abord à la loi de Moïse, mais nous pouvons étendre au-delà de la loi de Moïse, d'après les raisonnements que l'apôtre Paul lui-même a développés au début de l'Épître aux Romains. Il a montré que les païens qui n'ont pas la loi de Moïse ont, du fait que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur, l'équivalent. C'est moins précis, c'est moins fort, mais c'est équivalent. Et ils sont aussi sous la loi, même si elle est formulée de manière moins précise, et ils sont donc sous la condamnation de la loi, comme ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Être mort à la loi et être donc libéré de ce lien au système de la loi, cela veut dire ne plus dépendre de la logique qui est la logique toute simple et naturelle, pourrait-on dire, de la loi devant laquelle nous sommes responsables. C'est ne plus avoir à présenter une obéissance satisfaisante pour être agréé de Dieu, le juste juge. C'est cela, être mort à la loi. Être sous la loi, être sous le régime de la loi, être prisonnier, puisqu'il n'a pas l'expression, du régime de la loi, c'est dépendre de notre obéissance pour être agréé de Dieu. C'est très simple. Si tu fais ces choses, tu vivras. Le jour où tu enfreins le commandement, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est logique, c'est le principe même de la responsabilité, mais c'est désespérant, c'est mortel, parce qu'aucun de nous ne réussit à satisfaire aux exigences de cette loi, ni celle de Moïse, ni même celle qui est la loi universelle pour tous les humains. Et être mort à la loi signifie que nous sommes déliés de l'obligation d'apporter des œuvres satisfaisantes pour être agréé de Dieu. Voilà la première expression de ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il dit que nous sommes morts, unis à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous représentant a cassé le lien entre cette obligation de satisfaire aux exigences de la loi pour être agréé de Dieu, a cassé le lien qui nous rendait prisonniers. Mais ce n'est pas le seul aspect qu'il mentionne. Il mentionne aussi la mort aux passions pécheresses qui agissaient dans nos membres. Il emploie dans l'original le mot qui est traduit anciennement par le mot « chair ». Alors comme souvent il y a des malentendus, la Bible du Semeur a traduit « quand nous étions livrés à nous-mêmes », notre propre nature, etc. C'est le mot chair que vous connaissez dans les versions plus anciennes. Il s'agit effectivement de ce qui est en nous et que nous avons tant de peine à maîtriser. Nous savons tous qu'il y a en nous des forces, des tendances, des désirs qui sont déréglés, que nous avons beaucoup de mal à maîtriser, qu'en fait nous ne réussissons pas à maîtriser. De telle sorte que si nous nous rendons compte de ce que Dieu exige, la seule issue c'est le désespoir. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est ce que Paul explique dans la suite du chapitre 7 de l'Épître aux Romains. La mort que nous connaissons unie à Jésus-Christ, c'est une mort à tous ces désirs déréglés. Le point intéressant, c'est le lien entre le fait d'être sous la loi et le fait d'être livré à ces désirs déréglés que nous ne réussissons pas à maîtriser. Spontanément, les humains s'imaginent que pour maîtriser ces désirs, alors il faut souligner l'autorité de la loi, qu'il faut accomplir la loi pour être agréé de Dieu, que c'est vraiment cela qui est exigé. Il mise en quelque sorte sur la force du légalisme. Il faut satisfaire à la loi pour réussir à être maître de soi et pour subjuguer les désirs. Et puis ça ne marche pas. Ils n'y réussissent pas. Il y a mystérieusement, on peut réussir à l'élucider, au contraire, comme un lien de renforcement mutuel entre le fait d'être sous la loi et le fait d'être livré à ses désirs. Paul explique dans la suite du chapitre 7 que la loi excite les désirs. Il dit, au fond je vivais quand même pas, c'est pas si mal, le péché en moi, il était comme mort, enfin il était là quand même, hein. Il faut pas comprendre une mort comme quelque chose de tout à fait absolu, en l'occurrence. Mais il était latent, il ne se manifestait pas trop. Et puis le commandement est venu, tu ne convoiteras pas. Tu n'auras pas de mauvais désir. Eh bien, quel a été l'effet? Immédiatement, ça m'a fait désirer. Ça m'a fait convoiter plus fort. Le commandement a excité ce péché. Il a comme réveillé et intensifié le péché qui était en moi. Donc, le légalisme, loin de nous aider à maîtriser les mauvais désirs, contribue à leur donner plus d'intensité. Le péché révèle toute sa virulence de péché. Je pense que la vérité qui est profondément en cause de manière sous-jacente, c'est que le légalisme, l'effort pour satisfaire aux exigences de la loi en se forçant, nous coupe de Dieu. C'est une façon de se reposer sur soi-même, de se mettre soi-même au centre. Et dans la mesure même où nous nous coupons de Dieu par cette prétention à satisfaire la loi par nos propres ressources, nous nous coupons de toute source de force pour le faire. Donc nous sommes livrés à ces désirs déréglés qui sont en nous. C'est là le paradoxe du légalisme, et on se rend bien compte quand on analyse un peu les attitudes légalistes qu'en fait, c'est une satisfaction de la chair. Il le dit d'ailleurs dans l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens. Tous ces commandements, ne touche pas, ne mange pas, tous ces commandements typiques du légalisme, ils ont une apparence de piété, de sagesse, etc. Mais en fait, ils ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Parce que quand nous croyons que nous réussissons à obéir à la loi de cette façon, nous nous plaisons à nous-mêmes. Le légalisme est aussi une façon de se plaire à soi-même. Une façon assez paradoxale. On se fait mal, mais on se fait mal pour avoir ce sentiment en soi qu'on est bien. C'est là qu'on voit le caractère très égocentrique et finalement d'idolâtrie de soi qui appartient au légalisme comme tel. Et j'ajoute encore cela pour donner une sorte d'actualisation plus précise à ce que je dis, que le légalisme lui-même se déguise. Le légalisme est un déguisement de la satisfaction de la chair, mais il peut se déguiser encore lui-même de manière subtile. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de nos contemporains. Beaucoup de nos contemporains refusent expressément toute l'autorité d'une loi. Ils refusent de se reconnaître comme sous une obligation quelconque. Vous le savez, c'est très courant aujourd'hui. On refuse cette idée. Mais en réalité, il y a une loi qui pèse sur la conscience de beaucoup de nos contemporains, qui est une tyrannie très légaliste, qui ne dit pas son nom. C'est tout spécialement un psy, Alain Ehrenberg, je l'entendais encore l'autre jour à la radio, qui a mis cela en valeur. La fatigue d'être soi. Le sentiment qu'ont beaucoup de nos contemporains et qui en pousse plusieurs au suicide, qui sont sous une loi terrible, tyrannique, de réussite, de performance, à laquelle ils n'échappent pas et qu'ils ne sont pas capables de satisfaire. C'est aussi une loi, c'est aussi une forme de légalisme. Autrefois, la question c'était « suis-je coupable ?» Le vieux légalisme, ce nouveau légalisme, c'est « suis-je capable ?» On passe de coupable à capable, mais finalement, c'est le même résultat. On se sent honteux de soi, mécontent de soi, et finalement on désespère de soi, et certains vont jusqu'au suicide. Donc ne croyons pas que nos contemporains, qui s'estiment dégagés de loi, soient libérés du légalisme. Il tombe aussi sous ce légalisme. Donc mort à la loi comme système qui permette d'être agréé de Dieu, d'être justifié à ses yeux, mort aux passions déréglées qui sont en nous, voilà ce que signifie la mort avec Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais quand est-ce que ça se produit? Comment est-ce que ça se produit? Là, le chapitre 7 ne le dit pas clairement, mais le chapitre 6 en parle. Le chapitre 6, donc je suis juste avant, nous dit « Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » C'est une mort semblable à la sienne. Littéralement dans l'original, la reproduction ou la similitude de sa mort. Donc nous sommes morts, non pas au moment même de la croix, comme certains ont cru pouvoir le dire. Nous sommes morts d'une mort qui a été opérée en nous par l'Esprit et qui est une similitude, une application de la mort de Jésus-Christ. Il est notre chef et notre capitaine et son Esprit nous applique l'effet de sa mort de telle sorte que nous sommes libérés du système légaliste, de la loi comme moyen de justification, et libérés du coup de ce dérèglement des passions qui est en nous. Alors l'apôtre parle du baptême dans le passage que je viens de lire. Est-ce que cela doit être attribué au baptême d'eau? C'est ce que la grande tradition catholique a cru. Dans la chrétienté, dans son histoire, c'est le baptême qui a été désigné comme l'opération du Saint-Esprit qui fait mourir à la vie ancienne et qui régénère. Je crois que cette idée n'a pas d'appui dans les textes de l'ensemble du Nouveau Testament, et en particulier dans Romains 6. Romains 6 a souvent été cité dans ce sens, mais pour deux raisons. D'une part, on a mal traduit. Alors la Bible du Semeur a bien traduit. Ce n'est pas « nous avons été baptisés en sa mort », mais « pour sa mort », qui est la juste traduction. Il est vrai que la préposition dans l'original peut se traduire des deux façons. Mais à mon avis, on comprend mal si on imagine que le baptême nous plonge dans la mort du Christ. Le baptême d'eau est une référence à la mort du Christ. Il est mort pour nous et son esprit m'applique sa mort de telle sorte que je meurs à ma vie passée, à mes efforts légalistes, à toutes ces passions qui régnaient sur moi. Donc, il y a eu erreur de traduction, et la traduction « pour » qui est dans la Bible du Semeur, c'est celle que je crois devoir recommander. Deuxième raison, on n'a pas remarqué que ce qui est attribué de manière précise au baptême, dans le passage de Romains 6, et d'ailleurs aussi dans l'Épître aux Colossiens par exemple, ce n'est pas la mort qui lui est attribuée, c'est l'ensevelissement, c'est l'enterrement. Et ça fait quand même une différence. Chacun le sait, l'enterrement, ce n'est pas la mort. Je crois que nous avons une idée très juste et finalement très claire de ce qu'est le baptême d'eau dans la perspective biblique si nous disons que c'est l'enterrement qui suit la mort à la vie passée. C'est... Ce n'est pas la mort elle-même, mais c'est l'acte public et solennel qui, en quelque sorte, donne validité sociale à l'événement de la mort, qui enregistre l'événement de la mort. Voilà ce que c'est dans toutes les sociétés, la cérémonie funèbre, l'enterrement. C'est un acte public qui n'effectue rien de plus pour la personne en cause, mais qui inscrit dans la vie du corps social cet événement qui a eu lieu. Ben c'est exactement ça le baptême d'eau. Dans le baptême d'eau, c'est la mort du vieux personnage que nous avons été, qui est enregistré publiquement, solennellement, et avec toutes les conséquences qui peuvent en être tirées quant à l'appartenance à une église locale, par exemple. Avec les devoirs de la conduite, etc. Il paraît que dans les sociétés musulmanes, finalement, on n'embête pas un nouveau croyant tant qu'il dit croire en Jésus ou Issa, mais qu'il reste là. Il commence à être persécuté, et parfois jusqu'à la mort, quand il se fait baptiser. Parce que ça, c'est l'acte public qui vraiment entraîne des conséquences sociales, entraîne des conséquences dans les rapports interhumains. Et je crois que cette notion du baptême pourrait nous être utile, pourrait nous faire comprendre aussi l'importance du baptême d'eau. Il n'effectue pas la régénération, pas du tout. Il n'effectue pas la mort à la vie passée, mais cela compte. Il est important que la chose soit clairement dite et mise en évidence dans la vie du groupe social. Et penser que c'est juste un témoignage qu'on donne à un moment donné quand on en a un peu le sentiment, je crois que c'est affaiblir la notion du baptême. Et il n'est pas normal que ça attende des années. L'enterrement, normalement, ça suit la mort de relativement assez près. Vous voyez l'utilité de parler du baptême comme je vous suggère qu'on peut en parler. Et Romains 6 me semble aller dans ce sens. Alors il faut encore comprendre le mot mort d'une manière utile pour nous, me semble-t-il. Je pense qu'il y a deux composantes principales de la mort dans la perspective de la Bible. La mort, c'est la paralysie. On ne peut plus agir. Quand on est mort, c'est fini, on ne peut plus intervenir. C'est là ce qu'on appelle en latin la rigor mortis, la fixité cadavérique, plus de possibilité de mouvement. La mort, c'est la paralysie totale. Et deuxièmement, la mort, c'est la cessation de toute relation, de tout échange relationnel. L'expression dans l'Ancien Testament est très significative, retranchée de la terre des vivants. Cette mort, donc, ce n'est pas la dissolution de la personne. Ce n'est pas que le sujet humain se mettrait à fondre et à se diluer dans un océan d'êtres indifférenciés, comme certains l'imaginent et comme ce serait sans doute la pente de certaines pensées orientales. C'est pas du tout ça dans la Bible. Mourir à soi-même, à sa vie passée, à ses passions, etc., c'est non pas du tout se dissoudre, mais au contraire, assumer ses responsabilités, renoncer à être au centre du monde, à être l'alpha et l'oméga de sa propre vie, pour se recevoir de Dieu, pour être ce qu'il a déterminé que nous serions, pour exister par lui et pour lui. C'est cela, mourir à soi-même, c'est mourir à une fausse idolâtrie de soi, et parfois par compensation pour cette idolâtrie, alors la dissolution de soi. Cette distinction, on peut la faire, tout dépend des définitions qu'on donne, bien sûr, mais en utilisant en français, me semble-t-il, les deux mots de « moi » et de « soi ». Le « moi » est haïssable, c'est une formule de Pascal, et c'est le « moi » qui doit être mis à mort, mais pour que le « soi » qui est créé en image de Dieu et recréé en image de Dieu par l'Esprit, pour que le soi alors existe devant Dieu. En anglais, beaucoup parmi vous, vous êtes tout à fait habile en cette langue, donc je peux l'utiliser. Chesterton a dit ce que j'essaie de dire en utilisant les deux mots de self et de soul. Il a dit on ne peut jamais être trop mou dans le combat contre le self, contre cette prétention du moi, mais on ne peut jamais non plus être trop attentif au bien de son âme, soul. Et contraste du self et du soul qui correspond à ce que j'essaie de dire en parlant de moi et de soi. Pour cette raison même, comme ce n'est pas la dissolution de l'être du soi, et qui au contraire est fondée par Dieu, la mortification qui accompagne cette mort a sa place et doit être elle aussi bien comprise. Cette mort à notre ancien self, au moi qui s'idolâtrait lui-même, elle intervient en principe, elle est scellée par le baptême d'eau, mais ce n'est qu'un début. Il faut continuer dans ce monde à batailler dans le même sens. Et nous avons plusieurs passages qui nous disent « Mettez à mort, mortifiez », deux expressions veulent dire la même chose, « les membres qui sont sur la terre ». Alors ces membres qui sont sur la terre, c'est pas les bras et les jambes. Hein. Ces membres qui sont sur la terre, ce sont la cupidité, les mauvaises pensées, les jalousies, l'impudicité, etc. Voilà les membres qui sont sur la terre et qu'il s'agit de mortifier. Mais c'est un combat qui continue pour que la rupture avec les mauvaises manières du moi puisse progresser et s'achever. L'achèvement, c'est pour le retour du Seigneur, quand il viendra. Mais cela est la perspective biblique. Et cela réclame un combat énergique. Il y a des paroles très fortes de Jésus à ce propos. Et je souligne deux points. Il y a, me semble-t-il, ce qu'on peut appeler le jardinage du désir. Je sélectionne juste deux points. Hein. Le jardinage du désir. Enlever les mauvaises herbes qui représentent ces mauvais désirs dans mon image. Pas seulement passer la tondeuse pour que le dessus soit enlevé, mais arracher les plantes les plus fâcheuses. L'Épître aux Hébreux nous dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne persiste parmi vous. » Cette image des racines correspond à ce que je veux exprimer en parlant du jardinage du désir. Lorsqu'il y a de l'amertume, et dans une église, pas seulement dans une vie individuelle, c'est gros de très très grands dangers. Il faut extirper cette racine, il faut faire du jardinage. Deuxième suggestion pratique que je mentionne, les compagnonnages. L'apôtre Paul, au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, cette fois, nous dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes des êtres faits pour la relation et nous nous influençons les uns les autres. Il est pratiquement inévitable que nous subissions la contagion des choses malheureuses que nos amis, nos familiers pratiquent constamment. Nous sommes influencés, comme nous influençons de notre côté, en sens inverse. J'ai l'impression que notre vie moderne nous expose tout spécialement au danger des compagnonnages, disons, malsains, dangereux pour la bonne santé spirituelle. Et entre autres, le compagnonnage par le truchement de l'écran de télévision ou du jeu de l'écran pour le jeu vidéo, c'est vraiment une influence très éloignée de celle du Christ qui est comme accepté dans l'environnement immédiat, comme un élément du tissu de la vie pour beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et je crois qu'il y a là un danger. Nous ne pouvons pas échapper totalement à ces influences de l'environnement. Et ce n'est pas l'intention de Dieu de nous faire sortir du monde. Mais prenons garde à la culture de compagnonnage qui peuvent nous conduire peu à peu dans des voies qui ne sont pas celles du Seigneur. Donc, première grande ligne, puis je crois qu'il va falloir que j'accélère un peu, première grande ligne de recommandation, unie à Jésus-Christ dans sa mort, avec ce que cela implique pour notre pratique d'aujourd'hui. Deuxième grande ligne, unie à Jésus-Christ dans sa résurrection. Les passions auxquelles nous nous livrions avant de connaître Jésus-Christ et auquel donc nous mourons quand nous sommes unis à lui, ces passions, l'apôtre dit qu'elles menaient à la mort. Et donc, mourir à ces passions, c'est mourir à la mort. Être délivré, c'est une mort à la mort. Ce qui veut dire une introduction à la vie. La contrepartie de cette mort avec le Christ, après lui, par une reproduction de sa mort appliquée à notre vie, la contrepartie, c'est l'accès à la vie nouvelle, l'union à lui comme ressuscité. Et l'apôtre le souligne, nous sommes maintenant unis à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas pour rien qu'il l'appelle de cette façon. C'est cela que l'apôtre peut aussi exprimer en disant « Vous êtes ressuscité avec le Christ ». Il le dit à quelques reprises, et en particulier dans l'Épître aux Colossiens, un passage que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Donc c'est aussi une vérité qui apparaît dans les textes, notre union à Jésus-Christ dans sa résurrection. Voilà l'œuvre de l'Esprit. C'est à partir de là qu'il y a possibilité d'un fruit pour Dieu, une capacité d'agir qui nous libère de la paralysie de la mort spirituelle et une capacité de relation, d'échange vital qui alimente notre vie. Nous sommes faits pour cette relation. Là encore, je me sers d'une illustration. J'étais très frappé ces derniers temps encore, pourtant j'ai étudié ce chapitre depuis des années et des années, j'ai écrit un livre, etc. Mais j'étais très frappé de manière nouvelle par la place de l'alimentation dans les premiers chapitres de la Genèse. Si vous y pensez, mais je ne dis pas qu'on ne parle que ça, mais c'est incroyable. Le sixième jour, à quoi on aboutit ? Voilà ce que vous pourrez manger, voilà tout ce que je vous donne à manger. Dans le récit du jardin d'Éden, quel est le centre ? Des arbres bons à manger partout, et voilà, librement vous pourrez manger de tous ces arbres du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir du moment où cette désobéissance a été accomplie, qui fait basculer vers la mort, quand même encore cette préoccupation de la nourriture. Que dit la sentence du Seigneur adressée à l'homme ? C'est dans la douleur que tu mangeras tous les jours de ta vie, tu mangeras l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ton retour à la terre. Voyez à quel point ce thème de la nourriture est présent dans ces chapitres fondamentaux de l'Écriture. C'est, me semble-t-il, une illustration du fait que nous sommes dans le plan de Dieu des êtres d'échange. Nous sommes faits pas pour vivre repliés sur nous-mêmes, mais au contraire, dans l'ouverture, ce qui vaut non seulement au plan physique, qui est évoqué par l'alimentation, mais à tous les plans, et bien sûr, on peut parler du pain spirituel et du breuvage spirituel, comme nous l'avons fait ce matin. Donc, entrer dans la vie pour l'échange qui nous permet de goûter la manne du pain qui nourrit vraiment et de boire l'eau vive qui désaltère vraiment. Il y a cependant, me semble-t-il, une petite réticence dans le langage de Paul. Alors là, cela est plus subtil, mais j'ai dit qu'il affirme « vous êtes ressuscité ». Il le fait, mais en général, il dit « vous êtes ressuscité en lui ». En lui. Avec « votre vie est cachée en Dieu ». Et au chapitre 6, dans les versets que nous avons lus il y a quelques instants, il emploie le futur. Si nous sommes morts avec Christ, nous serons aussi participants de sa résurrection. Il emploie le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire, me semble-t-il, qu'il reviendrait sur l'affirmation qu'il y a déjà en nous la vie de résurrection. Non, l'Esprit est vraiment la vie de résurrection en nous. La vie du ressuscité qui nous est communiquée dès le temps présent. Si quelqu'un croit en moi, il est passé de la mort à la vie, dit l'évangile de Jean. Mais il y a quand même une réticence. Cette réticence correspond au fait qu'il ne s'agit quand même que des arts. et qu'il ne faudrait pas que nous nous fassions des illusions. On dirait que Paul, par cette précaution, ce langage nuancé, veut prévenir l'erreur qu'il va dénoncer plus tard dans la seconde à Timothée, l'erreur d'Hyménée et de Philète, qui renverse la foi de quelques-uns en disant que la résurrection est déjà arrivée. Et déjà dans la première aux Corinthiens, il fustige avec une ironie mordante les Corinthiens qui s'estiment arrivés. Déjà, vous régnez, vous, alors que nous, les apôtres, nous sommes les derniers d'entre les hommes. Hein. Déjà, pour vous, tout est là. Je crois que la tentation du triomphalisme est une tentation qui existe aussi aujourd'hui de manière prononcée. L'idée que la vie chrétienne, c'est forcément une vie de prospérité, de puissance qui se voit, qui se touche. Il me semble que la finesse du langage de l'apôtre Paul, il souligne, oui, il nous est donné cette vie nouvelle, mais que ce n'est quand même encore que des arts, et que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut atteindre le royaume de Dieu, et que c'est aujourd'hui encore pour nous le gémissement. Nous gémissons en attendant l'adoption. Nous sommes déjà fils et filles de Dieu, mais cela n'est pas encore publiquement dévoilé avec toutes les conséquences. Nous attendons encore la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. Cette vérité-là, tu pas encore, nous avons besoin, je crois, de nous la rappeler. Et aussi de nous la rappeler d'ailleurs pour ne pas nous décourager, parce que le triomphalisme, il se heurte tellement à l'évidence expérimentée que il y a bien des gens qui basculent alors d'une illusion gonflée et grisée par certaines bénédictions au découragement total. Parce que ça ne suit pas comme alors ils l'avaient attendu. Nous avons, me semble-t-il, à propos de la vie nouvelle qui est nôtre à partir de l'union à Jésus-Christ, cet avertissement à enregistrer, pas de triomphalisme facile. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Initialement, avant d'avoir quelques échanges avec M. Kosicki, j'avais pensé réfléchir avec vous sur ce texte de Zacharie aujourd'hui. Alors je le mentionne simplement maintenant, mais pour bien montrer que la puissance de l'esprit, c'est la puissance de la vie qui a des formes très très humbles, les petits commencements, et ce n'est pas forcément très spectaculaire, et ce n'est pas de la manière qui flatte précisément notre chair au sens du Nouveau Testament. Dans le combat et la discipline, la gymnastique spirituelle qui correspond à l'exploitation de ces arts de l'esprit, qui sont les arts de la vie de résurrection, il y a un élément qui fait problème pour un certain nombre et sur lequel je veux encore dire quelque chose, c'est la place de la loi. Vous êtes mort à la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne servons plus selon la lettre ancienne de la loi, dit l'apôtre dans le passage que nous avons lu. Certains chrétiens s'imaginent à partir de là que alors la loi de Dieu, les commandements que nous pouvons lire, loi et commandement, c'est à peu près équivalent dans le langage de l'apôtre Paul et de tout le Nouveau Testament, que la loi de Dieu, les commandements de Dieu, ça ne compte plus du tout pour les chrétiens, que les chrétiens n'ont plus besoin de les considérer, et ils s'imaginent que l'esprit, c'est comme une sorte d'instinct où il s'agit de tout faire spontanément. Il y a des... Vous savez qu'après 68, moi j'ai des souvenirs, évidemment, tous n'ont pas les mêmes souvenirs, mais on parlait pour une certaine catégorie de maoïstes, de Mao Spontex, parce qu'ils glorifiaient la spontanéité. Alors on les appelait, c'était leur surnom, les Mao Spontex. Je crois qu'il y a parmi nous, chrétiens évangéliques en général, des chrétiens Spontex, qui privilégient la spontanéité, comme je ne vois nulle part dans le Nouveau Testament que ce soit le cas. mais qui s'imaginent que l'esprit, voilà, c'est un flot, il n'y a pas à faire d'efforts, il n'y a pas à se discipliner. C'est comme l'esprit pousse et puis ça y est. Je ne pense pas que ce soit de cette façon que le Nouveau Testament parle. Et si nous ne sommes plus sous la loi, sous ce régime qui exige l'obéissance pour que nous soyons agréés de Dieu et qui nous replie sur nous-mêmes et nous livre à nos mauvaises tendances, nous ne sommes pas sans la loi. L'apôtre Paul le dit très clairement en 1 Corinthiens 9, « Je ne suis pas sans loi, je suis dans la loi de Christ en quelque sorte. » La loi continue à jouer son rôle, il est question constamment des commandements. L'apôtre Paul cite les commandements, et entre autres du décalogue, et manifestement comme des paroles qui ont autorité pour diriger la vie du chrétien. La loi de Dieu n'est pas abrogée en tant qu'elle est l'expression de sa volonté. Oui, il y a les ordonnances et prescriptions qui étaient données pour préparer la venue de Jésus-Christ. Toutes les lois sur les sacrifices, par exemple, ça c'est abrogé. Mais les commandements qui expriment la volonté de sainteté de Dieu pour ses enfants continuent de s'appliquer à la vie chrétienne. C'est ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, qui est l'expression de sa volonté, qui est là pour guider les membres d'un peuple de Dieu renouvelé. Et le paradoxe, alors, qui est très fortement mis en relief au début du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, c'est que c'est lorsqu'on n'est plus sous la loi qu'on peut obéir vraiment à la loi. Le paradoxe du légalisme, je dis tout à l'heure, c'est que quand on croit qu'en soulignant l'obligation de la loi, alors on va réussir à maîtriser ces tendances, mais on n'y arrive pas. Le paradoxe, c'est que quand on n'est plus sous la loi, qu'on sait qu'on est accueilli par Dieu par pure grâce, à cause de Jésus-Christ, et par le canal de son esprit, c'est alors qu'on obéit vraiment à la loi. Chose impossible à la loi, parce que la chair, nos tendances, etc., la rendaient sans force. Dieu, en envoyant son Fils pour le péché, comme victime pour le péché, a rendu possible notre libération. Et l'esprit de vie fait que la juste exigence de la loi est accomplie en nous qui ne marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. À marcher selon l'esprit et non plus sous la loi, nous obéissons réellement à la loi de Dieu qui se résume dans le commandement « Tu aimeras », le double commandement « Tu aimeras », c'est là le résumé. La loi continue d'être l'indication du chemin à suivre. L'esprit l'inscrit au fond de nous-mêmes, au lieu que ce soit comme une instance qui nous domine et qui nous terrifie. Et l'esprit nous donne l'énergie d'accomplir dans cet échange constant, cette alimentation de notre être intérieur par la parole et par l'eau vive de sa vie. Voilà la perspective qui me semble la perspective du Nouveau Testament quant à l'union au Christ dans sa résurrection. Un dernier mot pour montrer qu'on pourrait prolonger très longuement, mais je ne vais pas le faire. Cela vaut pour chacun de nous personnellement dans sa relation avec Dieu, mais cela vaut aussi pour le corps que nous constituons, baptisés dans un unique esprit pour former un même corps, unis les uns aux autres par la diversité des dons qui sont distribués, car ils sont là pour nous rendre utiles les uns aux autres. Nous sommes ensemble dans cette union au Christ, mort et ressuscité pour nous. Et il serait très, très intéressant d'étudier comment ces choses s'appliquent à la communion des chrétiens entre eux, au fonctionnement des églises même. Mais je ne dis pas que c'est une autre histoire à la manière de Kipling, je dis que c'est un autre chapitre de l'histoire et je ne vais pas donc essayer de l'exposer maintenant. Merci pour votre attention.
Merci. Merci, on peut le remercier.
Merci. Merci. Donc vous avez réussi à entendre.